La mort frappe à toutes les portes.
Je le savais, mon neveu, je l'avais dit, qu'il ne fallait point escompter ce jour-d'hui aller plus loin que Nontron. Et encore, n'y parviendrons-nous qu'après le salut, à nuit toute noire. La rue me rebattait les oreilles, Monseigneur se ralentit, Monseigneur ne va pas se contenter d'une étape de Villieu. Eh oui, la rue va toujours comme s'il avait le feu aux trousses. Ce qui n'est point mauvaise chose, car avec lui mon escorte ne s'assoupit point. Mais je savais que nous ne pourrions quitter Bourdeille avant le milieu du jour. J'avais trop à faire et à décider, trop de seins à donner. J'aime Bourdeille, voyez-vous, je sais que j'y pourrais être heureux si Dieu m'avait assigné non seulement de le posséder, mais d'y résider. Celui qui a un bien unique et modeste en profite pleinement. Celui qui a possession vaste et nombreuse n'en jouit que par l'idée. Toujours le ciel balance ce dont il nous gratifie. Quand vous rentrerez en Périgord, faites-moi la bonne grâce de vous rendre à Bourdeille, Archambault, et voyez s'il en a bien réparé les toitures comme je l'ai commandé tout à l'heure. Et puis la cheminée de ma chambre fumait. C'est grande chance que les Anglais l'aient épargné. Vous avez vu Brantôme, que nous avons juste passé, vous avez vu cette désolation qu'ils ont faite d'une ville autrefois si douce et si belle au bord de sa rivière. Le prince de Galles s'y est arrêté pour la nuit le 9 du mois d'août, à ce qui vient de m'être dit, et ses coutiliers et goujats au matin ont tout embrasé avant de repartir. Je réprouve fort cette façon qu'ils ont de tout détruire, ardoir, exilé ou ruiné, comme il semble qu'ils s'y adonnent de plus en plus. Qu'on s'égorge à la guerre entre gendarmes, je le conçois. Si Dieu ne m'avait désigné pour l'église et que j'ai eu à mener bannière au combat, je n'aurais point fait de quartier. Qu'on pille, passe encore, il faut bien donner quelque agrément aux hommes dont on exige risque et fatigue. Mais chevaucher seulement pour réduire le peuple à misère, griller ses toits et ses moissons, l'exposer à famine et froidure, cela me donne du courroux. Je sais le dessein. De province ruinée, le roi ne peut plus tirer un pot. Et c'est pour l'affaiblir qu'on détruit ainsi les biens de ses sujets. Mais cela ne vaut. Si l'Anglais prétend avoir droit sur la France, pourquoi la ravage-t-il? Et pense-t-il, même s'il l'emporte par les traités après l'avoir emporté par les armes, pense-t-il, en agissant de la sorte, y être jamais toléré? Il sème la haine. Sans doute, il prive d'argent le roi de France, mais il lui fournit des âmes qu'animent la colère et la vengeance. Trouver des seigneurs ici ou là pour faire allégeance par intérêt, oui, le roi Édouard en trouvera. Mais le peuple, désormais, lui opposera refus, car ce sont traitements inexpiables. Voyez déjà ce qui se produit. Les bonnes gens n'en veulent point au roi Jean de s'être fait battre. Ils le plaignent. Ils l'appellent Jean le Brave ou Jean le Bon, alors qu'ils devraient l'appeler Jean le Sot, Jean le Buté, Jean l'Incapable. Et vous verrez qu'ils sauront se saigner pour payer sa rançon. Vous me demandez pourquoi je vous disais hier que la peste avait eu grave effet sur lui et sur le sort du royaume. Eh, mon neveu, pour quelques morts en mauvais ordre. Des morts de femmes et d'abord de la sienne, Madame Bonne de Luxembourg, avant qu'il ne soit roi. Madame de Luxembourg fut enlevée par la peste en septembre de 1349. Elle devait être reine et eût été une bonne reine. Elle était, comme vous le savez, la fille du roi de Bohême, Jean l'Aveugle, qui avait si grand amour de la France qu'il disait que la cour de Paris était la seule où l'on pût vivre noblement. Un modèle de chevalerie, ce roi-là, mais un peu fou. Bien que n'y voyant goutte, il s'obstina de combattre à Crécy, et pour cela il fit lier son cheval aux montures de deux de ses chevaliers qui l'encadraient de part et d'autre, et ils se ruèrent ainsi à la mêlée. On les trouva morts, tous les trois, toujours liés. Le roi de Bohême portait trois plumes d'autruche blanche au cimier de son aume. Son noble trépas frappa si fort le jeune prince de Galles. Il allait alors sur ses 16 ans, c'était son premier combat, et il s'y conduisit bien, même si le roi Édouard estima politique d'exagérer un peu la part de son héritier dans cette affaire. Le prince de Galles, donc, fut si frappé qu'il pria son père de lui laisser porter dorénavant le même emblème que feu le roi aveugle. Et c'est pourquoi l'on voit les trois plumes blanches surmonter à présent le haume du prince. Mais le plus important en Madame Bonne, c'était son frère, Charles de Luxembourg, dont nous avions, le pape Clément VI et moi, favorisé l'élection à la couronne du Saint-Empire. Non que nous ne pensions avoir quelques embarras avec ce rusto madré comme un marchand. Oh, rien de son père, vous en jugerez bientôt. Mais comme nous prévoyions aussi que la France connaîtrait de piètres moments, c'était la renforcer que de faire son futur roi beau-frère de l'empereur. Morte la sœur, finie l'alliance. Les embarras, nous les avons eus avec sa bulle d'or, mais d'appui à la France, il n'en a guère donné, et c'est bien pourquoi je m'en vais à Metz. Le roi Jean, qui n'était encore alors que duc de Normandie, ne montra point un désespoir extrême de la mort de Madame Bonne. Il y avait peu d'entente entre eux et souvent des éclats. Bien qu'elle eût de la grâce et qu'il lui ait fait un enfant chaque année, 11 au total, depuis qu'on lui avait donné à comprendre qu'il était temps pour lui de se rapprocher de son épouse dans le lit, Monseigneur Jean, pour l'affection, inclinait plutôt du côté d'un sien cousin de 8 ans son cadet, d'assez jolie tournure, Charles de la Cerda, qu'on appelait aussi Monsieur d'Espagne parce qu'il appartenait à une branche évincée du trône de Castille. Aussitôt Madame Bonne mise en terre, ce fut en compagnie du beau Charles d'Espagne que le duc Jean se retira à Fontainebleau pour fuir la contagion. Oh, ce vice n'est pas rare, mon neveu. Je ne le comprends point, et il m'en colère fort. Il est de ceux pour lesquels j'ai le moins d'indulgence, mais force est de reconnaître qu'il est répandu, même chez les rois, auxquels il fait grand tort. Jugez-en parce qu'il advint du roi Édouard II d'Angleterre, le père de l'actuel. Ce fut la sodomie qui lui a coûté et le trône et la vie. Notre roi Jean n'est pas à ce point sodomite affiché, mais il en marque beaucoup de traits, et il les montra surtout dans sa passion funeste pour ce cousin d'Espagne au trop gracieux visage.